Nous savons maintenant que l'Odyssée marque une victoire au box-office mondial, mais nous allons voir si le nouveau Spider-Man peut lui faire de l'ombre. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Spider-Man Brand New Day, ou Spider-Man Un Nouveau Jour au Québec. Ils ont la chance de pouvoir parler français. D'autant plus que Brand New Day n'est tellement pas vendeur en France, mais soit. Alors, j'annonce qu'il s'agit de ma première vidéo filmée avec un prompteur sous mes yeux, dans lequel j'ai investi, ce qui signifie que j'ai enfin toutes mes notes devant mes yeux et que je n'ai plus besoin de tourner mon regard chaque fois comme ça, vers le bas, voilà. Au moins, les gens arrêteront de me casser les pieds avec ça, en plus de gagner du temps au tournage et au montage. Bref, nous parlons aujourd'hui d'un film américain réalisé par Destin Daniel Cretton, qui n'est pas son premier coup d'essai chez Marvel, puisqu'il avait réalisé Shang-Chi, qui, bien son écriture bancale, proposait des scènes d'action particulièrement saisissantes qui collaient parfaitement à l'esprit d'un Spider-Man. Il s'agit ici du 38e film du MCU et le second de la phase 6, Sony ayant conclu un accord avec les studios Marvel depuis 2015, ce qui a donné lieu à des crossovers de fous furieux au cinéma, comme la réunion des Spider-Man. Et si Peter Parker galère autant à protéger son identité secrète dans ce Brand New Day, c'est au moins parce que Mysterio a révélé son nom au monde entier. Mais dans notre réalité, pas besoin d'être un super-héros ou avoir un super-vilain au derrière pour que nos informations personnelles se retrouvent éparpillées partout sur Internet. Vos adresses mail, numéros de téléphone et parfois même vos adresses postales sont récoltées et revendues à votre insu par ce qu'on appelle des courtiers de données ou data brokers. Ça ouvre la porte aux arnaques, aux spams et à l'usurpation d'identité. Et c'est là qu'intervient Inconi, le sponsor de cette vidéo. Inconi est un service entièrement automatisé qui contacte ses courtiers en votre nom pour exiger la suppression définitive de vos données personnelles conformément au RGPD. Et pour les données exposées sur d'autres sites spécifiques, la fonctionnalité de suppression personnalisée permet d'envoyer un simple lien à votre expert dédié pour qu'il s'en occupe à votre place. Pour ma part, Inconi m'a déjà permis de retirer mes informations de dizaines de bases de données, me faisant gagner des centaines d'heures de démarches fastidieuses. C'est d'ailleurs le premier et seul service de ce type à avoir été vérifié de manière indépendante par Deloitte, l'un des plus grands cabinets mondiaux chargés de vérifier et certifier en toute indépendance si les entreprises respectent bien leurs promesses, ce qui garantit que le travail est réellement effectué. Si vous voulez enfin reprendre le contrôle de votre vie privée, vous pouvez tester Inconi sans aucun risque grâce à leur garantie satisfaite remboursée 30 jours. Cliquez sur le lien en haut de la description, inconi.com/plottime, et utilisez mon code PLOTTIME pour obtenir 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Sur ce, espérons avoir suffisamment de toile pour cette suite. Nous sommes au 4e film de la franchise avec Tom Holland que je ne déteste pas. Voilà, je ne déteste pas. Disons simplement qu'il rentre dans la grande catégorie de la fatigue. La Pedro Pascal fatigue, la Zendaya fatigue, la Tom Holland fatigue, la Timothée Chalamet fatigue, bref. Nous sommes également sur une suite directe de No Way Home que j'ai revue à l'occasion pour me remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et vous savez, dans ma vieille vidéo critique, j'avais assumé avoir été aveuglé par la nostalgie du fanservice. En revanche, des années plus tard, je n'ai pas du tout aimé mon revisionnage. J'ai trouvé le film malaisant. Déjà, tout ce qui touche à la réal, en dehors des scènes d'action qui étaient plutôt intéressantes, était relativement bancal. Là où le style de Sam Raimi était créatif en permanence, sur chaque scène, sur chaque plan, un véritable travail d'orfèvre. Mais le pire du pire, c'est de très loin l'écriture, scénarisée par un enfant de 12 ans, et les dialogues écrits par un enfant de 8 ans. C'est littéralement le genre de scénario que je faisais avec mes jouets quand j'étais petit. Voilà.
Un sortilège? De la magie? C'est quoi, une fête d'anniversaire?
Moi, perso, je veux pas me faire tuer. Surtout pas par un gars habillé à la Donjons et Dragons, alors.
Eau douce ou eau salée? Oui, vu que vous êtes une pieuvre.
Norman,
non. À la niche, le caniche.
Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague.
La scène de la rencontre entre Andrew Garfield et Tobey Maguire est malaisante, mais tellement que les acteurs sont mal dirigés, avec Andrew Garfield qui fait de son mieux pour animer la scène. Et c'est sans parler des faux méchants inutiles en CGI pour combler l'absence des acteurs d'origine. Waouh! Ah vraiment, c'était... Revoir ce film, c'était spécial. J'ai pas du tout aimé ça. Cela dit, mon premier visionnage en salle avec les gens qui applaudissent autour, c'était quand même sympa. Et rien que pour ça, je suis content de voir que ce film existe. Mais est-ce le même ressenti pour Brand New Day? Nous allons savoir tout de suite. Désormais seul au monde et effacé de la mémoire de tous, Peter Parker se rattache à son rôle de protecteur de New York. Mais le poids de la solitude et du chagrin face à des proches qui continuent leur vie sans lui, comme si de rien n'était, déclenche en son fort intérieur un mystérieux changement biologique. Alors qu'une menace invisible et impitoyable émerge pour frapper la ville et ceux qu'il aime encore, cette mutation est imprévisible. Je tiens à féliciter personnellement tous les gens qui ont réussi à ne pas se faire spoiler le film. Voilà, je suis allé, je me suis dit, ah bah tiens, bah, je constate que je n'étais pas censé savoir ça. Mais soit, voilà, il y a eu tellement de teasing de partout, des théories, de fans, de Marvel, et j'en passe. C'était très dur pour moi qui m'actualise chaque jour, bah pour, vous savez, bah pour développer ma chaîne. C'était très dur pour moi de ne pas faire spoiler. Et donc voilà, je n'ai pas réussi à échapper aux mailles du filet. Première séance quasiment complète, voilà. Et la salle était extrêmement animée, bien plus que pour l'Odyssée. La salle était aussi pas complète, un peu moins que pour Spider-Man. Mais ce que je veux dire, c'est que Spider-Man était beaucoup plus enthousiaste, voilà, c'était beaucoup plus animé. L'Odyssée, c'était presque un enterrement à côté. Donc là, ça ne fait aucun doute, ce Spider-Man va casser son milliard, exactement comme le précédent. Mais le précédent a eu besoin de taper un peu dans le fan service, dans la nostalgie, pour réveiller un peu les gens. Là, ça ne va pas être le cas. D'ailleurs, je vais développer un peu dans en partie spoilers de pourquoi ce film-là ne joue pas sur la nostalgie de la même façon que le film précédent. Et malgré ça, je pense qu'il va quand même réussir à casser un petit score au box-office mondial. Dès le commencement, je sens le renouvellement dans le ton dont la franchise, selon moi, avait terriblement besoin. On est passé par une phase un petit peu gamin avec Tom Holland. Là, je sens que Marvel a compris que le public de Tom Holland, pour la plupart, beaucoup plus adolescent. Enfin, je pense que Marvel voulait vraiment toucher un public très jeune avec Tom Holland. C'est chose faite. Là, il a compris que le public a grandi, donc le film doit, enfin la franchise devait évoluer avec son public, et sur cet aspect, je dois reconnaître que c'est quand même vachement réussi. Cela dit, j'ai quand même une petite déception à noter. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages caméo pour le marketing. On pensera par exemple à Scorpion, joué par Michael Mando, Hulk, toujours joué par Mark Ruffalo. À quand un film sur Hulk? Bref, tous ces personnages qui sont plus là pour remplir la fonction Marvel, voilà, c'est pour remplir le cahier des charges marvelesque dont la production avait besoin. Et j'ai vraiment l'impression que c'était là parce que la production avait besoin de vendre plus de méchants à l'écran, notamment sur les bandes annonces. Voilà, au moins on sait qu'on a un Scorpion à l'écran, on a un Hulk, c'est extrêmement vendeur, car la menace principale, elle, de son côté, devait rester invisible, voilà, jusqu'à la sortie du film. Donc malheureusement, je ne peux pas vous parler de la menace principale sans vous spoiler, et c'est pourquoi j'ai dû créer une partie spoilers dans cette vidéo, comme de plus en plus. Donc voilà, on nous a ajouté tout un tas de personnages fonctions, un Scorpion, un Hulk, des ninjas. On pensait vraiment, enfin, je trouve ça presque dommage, je pensais vraiment voir un Spider-Man affronter toute une organisation secrète asiatique de ninjas, mais pas du tout. Alors attention, je n'ai vu que la première bande-annonce, j'ai fait exprès de me garder la seconde de côté, voilà, après le visionnage du film en tout cas, pour être sûr de garder un maximum de surprises. Mais force est de constater que la plupart des méchants qui nous sont présentés comme Michael Mando en Scorpion sont là plus pour faire joli. En revanche, la petite surprise, bon, même si on s'en fout un petit peu, hein, mais Frank Castle, Punisher, est bien présent, donc toujours joué par John Bertal. Et là, pour le coup, il a un vrai second rôle avec un développement quasiment absent, et j'ai envie de dire heureusement, parce que quand tu farcies la série Daredevil, la série Punisher, les deux saisons, avec le film bonus qui est sorti il y a quelques temps pour teaser en quelque sorte sa présence dans Spider-Man, heureusement qu'ils nous ont épargné un développement sur lui pour nous rappeler son passé terrible. Ça aurait été pénible, mais je me mets à la place des gens qui n'ont pas eu le temps de faire leur devoir, voilà, avec Marvel, l'univers étendu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser ces personnages. Ils doivent se dire que c'est un petit peu anecdotique, pas intéressant. Malgré ça, j'avoue que je m'attendais pas à voir ce personnage autant présent à l'écran. Et c'est ironique parce que, finalement, Frank Castle et Spider-Man, ce sont deux extrêmes opposés. Après, vous allez me dire que c'est un petit peu comme Daredevil. Daredevil, lui, se comporte comme Spider-Man, c'est-à-dire qu'il ne veut pas tuer. C'est un peu pareil entre Spider-Man et Frank Castle. Là, c'était un bourrin contre un mec beaucoup plus pacifique. Mais la série Daredevil, elle, est extrêmement violente, extrêmement sanglante. Donc, ça fait un contraste vraiment étrange de voir ces deux personnages côte à côte. En tout cas, pour se recentrer sur le personnage principal, Spider-Man, Peter Parker, joué par Tom Holland, je me rends compte que c'est le premier Spider-Man à dépasser les trois films. Enfin, on y est arrivé. Donc j'ai envie de dire félicitations, voilà, je tiens mon chapeau. Et y a pas à chier, il fait quand même un très bon boulot. Voilà, je trouve qu'il respecte énormément l'héritage de ce super-héros de mon enfance, parce que oui, quand j'étais petit, je ne jurais que par trois choses, Batman, Spider-Man et Superman. Voilà, c'était vraiment la trilogie de mon enfance. Donc, pour le coup, je trouve que Tom Holland respecte assez bien ce personnage, ça fait plaisir. Mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que les créateurs n'ont pas cherché à le déconstruire davantage. Alors certes, depuis l'arrivée dans le MCU, il y a une volonté de faire beaucoup plus de blagues, de rendre le personnage un peu plus enfantin, gamin, gaga. Là, ça a changé. Il y a clairement quelque chose qui a changé dans le ton. Il m'a vraiment semblé gagner en maturité dans cette suite. Et ça se ressent encore plus dans les choix de dialogue, qui sont beaucoup moins lourds. Et puis, il est musclé, le bâtard. Mais vous avez vu ça un petit peu? Non, mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu son corps, je me suis dit, je veux ressembler exactement à ça. Et là, je vois qu'il a encore glow up. Alors, forcément, c'est une star, un acteur connu, donc il doit bien se faire coacher de façon chirurgicale. Mais là, vraiment, c'est tous ses muscles sont parfaitement dessinés. C'est vraiment le corps parfait, il est là. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore, personnellement. Je veux ressembler exactement à ça. Je vous le dis. Il y a une chose que je trouve vraiment appréciable, principalement dans ce film, c'est que Peter Parker, bon, c'est un personnage très intelligent, notamment sur le côté scientifique, là il le met vraiment en avant, mais on a beaucoup bombardé de personnages girl power ces dernières années, je pense que ça, voilà, si vous suivez ma chaîne, vous n'avez pas échappé à ça, et je me suis rendu compte qu'on a voulu rendre des personnages féminins intelligents pour les rendre intelligents, pour faire genre, hey, regardez, nous, on est les femmes, on est intelligents. Et jamais de la vie, ça passerait par la tête des créateurs de faire la même chose pour les personnages masculins. Les personnages masculins, en fait, on les rend intelligents seulement quand ça sert le scénario. Là, on le ressent vraiment ici. Si ce personnage est aussi intelligent, c'est parce que le scénario en avait vraiment besoin pour avancer. Sinon, on reste bloqué au statu quo. Donc, pour que Peter Parker puisse régler le problème principal que je ne peux pas vous spoiler dans ma vidéo pour l'instant, dont je vous reparlerai en partie spoilers, il va devoir user un maximum, plus que jamais, de son intelligence. Intelligence qui se limite, en tout cas, à son expérience scientifique. Et ça nous emmène au point suivant qui est encore un point fort, c'est que ça fait vraiment du bien de regarder un film Spider-Man qui parle réellement de Spider-Man. Là, vous allez me dire, de quoi tu parles? Le film précédent, c'était pareil, machin chose. Bah, pas tant que ça. Le film précédent parlait de nostalgie. Ça parlait, voilà, de l'héritage des Spider-Man, machin chose. Bon, ok, d'accord, tu veux. Là, ça parle vraiment des complexes de Peter Parker, de sa psyché, de ce qu'il veut vraiment, l'acceptation de soi. Il y a tout un truc, toute une thématique autour de l'acceptation de soi. Ça fait vraiment du bien de voir ça pour un film Spider-Man. On nous montre un super-héros tel qu'il devrait être réellement au cinéma, un Spider-Man qui passe son temps à sauver des gens, un Spider-Man qui fracasse des criminels. Voilà, on n'est pas sur du, je sais pas, sur du Daredevil qui fracasse des flics parce que c'était un petit peu la mode ces derniers temps. Voilà, on n'a pas peur de montrer un Spider-Man qui sauve sa propre meuf. On nous refourgue un petit peu le cas de la demoiselle en détresse, mais quel plaisir. Là, vous allez me dire que oui, mais c'est la base. Non, c'est pas la base. Je veux dire, récemment encore, avec Supergirl, on nous a... Enfin, James Gunn, il est resté bloqué dans l'idée que la demoiselle en détresse, c'est un cliché, faut pas le montrer, donc la demoiselle en détresse n'a même pas le droit de se faire sauver par un autre personnage féminin. Il faut que la demoiselle en détresse se sauve elle-même. C'est d'une débilité, mais profonde, là, le réalisateur de ce film, de ce nouveau Spider-Man, ne tombe pas dans le panneau. Mary Jane, MJ, enfin en tout cas, la Zendaya, telle qu'elle est présentée dans le film, est vulnérable dans sa situation, donc c'est Spider-Man qui doit la sauver. C'est un petit kiff, voilà, c'est le kiff d'enfance qui s'agite à l'intérieur de moi. Alors cela dit, Zendaya en MJ, bon, comment dire, c'est... Elle se contente de garder son propre rôle de Zendaya, voilà, c'est... je n'ai malheureusement pas grand chose à dire de plus sur elle, si ce n'est qu'elle est là, voilà, aussi inexpressive que dans d'autres films, ou que dans l'Odyssée aussi. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment... C'est pareil pour son pote Ned. Voilà, il est là. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur lui. De plus, on avait commencé à émettre la possibilité de le voir développer des talents d'art mystique dans le film précédent. Là, c'est complètement mis sous le tapis. Mais après, n'est-ce pas finalement un bon point? Parce que, encore une fois, on revient sur l'idée que le film cherche plutôt à rester focus sur Peter Parker. C'est un film Spider-Man qui parle de Spider-Man et de Peter Parker. Et comme je vous l'expliquais, le ton est donc beaucoup plus mature, donc forcément on a moins de blagues. Alors attention, le film est toujours un peu humoristique, il y a toujours des blagues à droite à gauche, mais c'est tellement moins lourdingue. Et tellement moins lourdingue que dans les films précédents. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'était avec Mysterio, là, les blagues toutes les deux minutes. Et les gars, ça va bien. Il y a toujours des blagues, encore une fois, mais le film s'accorde des moments de sérieux. Le film se laisse respirer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fait plaisir. Exactement comme ce qu'avaient fait les premiers films de Sam Raimi. Ce que faisaient aussi, surtout, les films Amazing Spider-Man. Spider-Man, c'est pas juste un Deadpool. Voilà, ce sont des films qui doivent se laisser respirer parfois. Le réalisateur a changé, donc forcément le style visuel est différent, et ça aussi c'est pour le mieux. C'est le premier film Spider-Man que je vois depuis longtemps qui innove un peu plus dans son découpage. Merci Seigneur, enfin c'est beaucoup plus vertigineux. Les scènes d'action proposent un style presque euphorisant. J'avais l'impression d'être en transe face à l'aspect attractif des cascades dans le ciel. Alors je vous explique, vous savez, des fois quand on regarde un film d'action avec des scènes vraiment mouvementées, d'une fluidité rare, on a un peu l'impression de tomber en transe. Voilà, on a un sentiment de plaisir euphorisant devant l'action en question, notamment sur les grosses scènes d'action présentées lors de l'introduction. Eh bien, ça fait vraiment sensation. Il y a un vrai sentiment de vertige, on a presque l'impression qu'on va tomber avec Spider-Man. Donc, je sais pas si le film propose des versions 3D, 4DX, j'imagine que oui, mais ça peut faire son effet, j'imagine, avec une volonté de transformer le film en attraction. Je pense que c'est le montage plus fluide qui contribue à cet effet. Il y a un effet que j'aime beaucoup, c'est lorsque l'entité en question, que je ne peux pas vous spoiler, rentre dans la tête de Peter. Et à chaque fois, on enchaîne une scène très mouvementée pour ensuite entrer dans sa tête. Donc on a la caméra qui rentre carrément dans le regard de Peter. Et voilà, c'est encore une fois, c'est extrêmement attractif. On est presque dans un... comment dire, dans une attraction Disney. On a beaucoup d'idées de plans amusants. Par exemple, on a un plan sous la cagoule qui rappelle beaucoup Tony Stark. Souvent, on voyait des plans où on voyait le visage de Tony Stark dans son armure. C'est un peu absurde parce que concrètement, la caméra n'a pas la place de rentrer dans un casque. Eh bien, c'est pareil pour Spider-Man. Des fois, on a des plans cagoule. On a des plans, on voit son regard sous la cagoule. Cagoule qui lui écrase le visage, donc concrètement c'est impossible. Mais c'est une bonne façon d'imager un peu son ressenti dans telle situation. Notamment dans sa volonté de rendre son regard noir lorsqu'il se fait rattraper par ses démons. Ça on en parlera évidemment en partie spoiler. C'est un film qui va également beaucoup revenir aux sources. On a Spider-Man dans un costume bien plus lambda, un costume en tissu, donc il abandonne son côté Iron Man. Et ça, enfin, il y avait une belle évolution par rapport à ça. Mais ça fait plaisir, encore une fois. Le film veut vraiment faire ça. Il veut revenir aux sources pour se rapprocher de la volonté de vouloir parler de Spider-Man. Encore une fois, c'est un film qui parle de Spider-Man, notamment sur sa capacité supplémentaire qui apparaît au fur et à mesure du film. Par contre, allez, petite déception, la musique. Certes, ça allait un petit peu moins générique que le film précédent, mais c'est quand même un peu décevant. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai la musique en tête, enfin, j'ai le thème principal en tête. C'est pas ouf. Le thème, il est quand même pas ouf, mais je l'ai en tête, donc ça reste bon signe. Disons que ça fait le café, mais j'attends beaucoup mieux d'un film Spider-Man au niveau de la musique. La musique, c'est hyper important. Pour moi, on n'a pas fait mieux que Sam Raimi dans la première trilogie. Bien, à présent, nous pouvons spoiler le film. Alors, je peux enfin parler de la toile d'araignée. Je n'ai pas vu les autres bandes annonces, j'ai vraiment tout fait pour ne pas me faire spoiler. Je découvre, hein. J'ai découvert ce film presque avec vous, si on veut. J'ai découvert que Tom Holland, enfin le Spider-Man de Tom Holland, tisse à présent de la toile exactement comme Tobey Maguire. L'idée est cool, surtout que là ils ont vraiment associé cette toile d'araignée avec la psyché qui est en train de changer, notamment par rapport au fait qu'il essaie de se renier. Il renie le fait qu'il est Peter Parker pour protéger les siens. Donc l'idée... je vais pas dire que c'est brillant, mais c'est intelligent. Voilà. Ça fait partie d'une bonne évolution du personnage. Je trouve que ça fait un moment que Tom Holland était un peu bloqué. On a voulu faire une évolution par rapport à sa tante qui meurt. Donc voilà, il essaie de combattre ses démons. Là, il se combat lui-même. Donc forcément, t'as son corps qui se rattrape en le transformant en araignée. Et moi, je me suis dit, attends un peu, mais est-ce que c'est là? Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de Spider-Man qui se transforme vraiment en araignée? C'est un truc qui m'avait traumatisé dans le dessin animé, je sais pas si vous connaissez, mais il y avait un dessin animé qui passait sur TF1 où on a toute une phase body horror qui m'avait un peu trauma, où Peter Parker se transforme réellement en araignée. Je sais pas s'ils le mettront un jour en film, enfin en tout cas sur Sam Raimi aurait adoré le faire, mais ça n'arrivera certainement pas dans un film comme ça, beaucoup plus grand public avec Tom Holland, parce que c'est carrément du body horror, hein, c'est dégueulasse. Donc je me suis dit, attends, il va se transformer en araignée parce que on a ses yeux qui deviennent noirs. Il tisse vraiment la toile, donc c'était assez intéressant, mais non, ça ne va pas jusqu'à là. Mais justement, je trouve que le film ne va pas assez loin dans ce concept-là. Je pensais vraiment qu'il allait devenir une partie sombre. Il allait devoir combattre une partie sombre de lui-même, notamment lorsqu'il affronte Scorpion. On a une scène où il affronte Scorpion. Et là, il commence à devenir un petit peu rageux. Enfin, il commence à laisser la rage l'emporter. Et je pensais vraiment que ça allait faire un truc à la Venom dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, où il allait devoir affronter ses démons. Et sauf que non. Et là, pour le coup, je trouvais ça assez bâclé de ce point de vue-là. Mais ce qui est bien fait, c'est que le film retombe bien sous ses pattes par rapport à l'acceptation de soi. Lorsque Peter Parker accepte qu'il est vraiment Peter Parker, il se dit à la fin, je suis les deux, je suis et Spider-Man et Peter Parker. Voilà, je suis pas l'un ou l'autre, je n'ai pas à sacrifier qui que ce soit. Et la scène de fin, la scène de combat en tout cas de fin, est réussie dans le sens où il se bat sans sa cagoule. Donc il y a une symbolique par rapport au fait qu'il a son costume de Spider-Man, né avec la tête de Peter Parker. Et ses yeux, vous savez, ses yeux noirs, donc c'est là où il embrasse complètement sa nouvelle forme avec sa toile d'araignée biologique. Il y a un autre point extrêmement important que je voulais aborder dans la partie spoilers, c'est que le film, ça m'a vraiment surpris, et en bien, le film n'a pas succombé au mauvais fan service. Parce que voilà, il y a le bon et le mauvais fan service. Pour moi, le bon fan service, c'est le fait, par exemple, d'insérer Hulk. Voilà, c'est logique, c'est les Avengers, on a, il y a le partenariat avec Sony et le MCU, ok, très bien, on insère Hulk, bon, et le développement, il est quasiment inexistant, c'était vraiment pour remplir le cahier des charges, ok, c'est pas grave, ça nous fait une belle scène d'action avec Hulk, il n'y a pas de problème, c'est assez stylé, pareil avec Scorpion, c'est un peu décevant, j'attendais vraiment beaucoup plus, mais le film est tellement long, le film veut tellement se concentrer sur Spider-Man que, allez, c'est acceptable, c'est pas un mauvais fan service. C'est au contraire pour enrichir l'univers de Spider-Man, c'est important. Mais le mauvais fan service pour moi aurait été d'insérer du multivers à gogo, à foison, de remettre Tobey Maguire. Enfin, j'aurais pas craché dessus, mais remettre les anciens Spider-Man, ça aurait fait trop. Là, je pense que beaucoup se sont posé la question avant d'aller voir ce film. Est-ce qu'on va remettre, enfin au moins une fois dans une scène, on va faire réapparaître les anciens Spider-Man. Ça n'aurait aucun sens en termes de, enfin par rapport à ce qui s'est passé dans les précédents. Donc bravo à Marvel, enfin ils m'ont eu, vraiment ils m'ont eu, parce qu'ils n'ont pas succombé à leur vice. Ils n'ont pas foutu des caméos invraisemblables dans tous les sens, comme l'avait fait le Doctor Strange 2 avec les 4 Fantastiques, les X-Men. Alors si, il y a Jean Grey dont on va pas reparler dans un instant, mais ils n'ont pas succombé leur vice et c'est vraiment très cool. Donc il y a du fan service, il y a des caméos, mais qui restent dans le cadre d'un Spider-Man. C'est exactement ce qu'il fallait faire, donc bravo Marvel, voilà, vous m'avez eu. Et donc, j'en viens au personnage de Jean Grey, qui est joué par Sadie Sink, et là, voilà, c'est le détail que je me suis fait spoiler avant d'aller voir ce film. Donc voilà, je savais pas, je pensais vraiment que Sadie Sink allait jouer une MJ d'un autre univers, en fait non. Et justement, c'est là que le film est intéressant, c'est qu'il n'a pas succombé à la fameuse tentation du multivers invraisemblable, ils ont résisté, et en fait, non, elle jouera à la nouvelle Jean. Et pourquoi pas, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très bonne actrice, elle mérite selon moi un peu mieux que des blockbusters d'action, voilà, un peu, voilà. Si ça peut la faire rebondir dans d'autres films, parce que je la trouve vraiment très bonne, mais ça fait plaisir de voir qu'on prend une vraie rousse pour jouer une rousse, voilà, suivez mon regard. Et ils n'ont également pas résisté à la tentation d'en faire la méchante victime, enfin, la méchante et la victime à la fois. Tu dis, elle a fait quand même beaucoup d'horreurs dans le film, c'est un peu tragique, enfin, elle fait même des horreurs, mais horribles, enfin, elle fait des choses que, pas pensables, elle fait des choses criminelles, et le fait de voir que Peter Parker la pardonne, tout ça, c'est un peu limite, hein. Il y a quand même des scènes où elle contrôle les personnages pour les faire tuer, enfin, faire en sorte qu'ils se suicident. Bon, c'est un peu limite, voilà, ça reste un film à grand public, ça se pardonne, mais bon, il y avait mieux à faire, je pense. On a également Tramed Tillman qui joue dedans, je ne l'avais absolument pas reconnu avec ses coupes de cheveux et cette barbe, qui joue en fait Milchik dans Sévrance. Et si j'avais su que c'était cet acteur-là, j'aurais compris quelles étaient ses intentions, parce que finalement, c'est un personnage beaucoup plus mesquin. Et à chaque fois, enfin, c'est une malédiction, mais à chaque fois qu'on choisit maintenant pour un rôle, c'est pour rejouer le personnage Milchik, c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'il vaut mieux que ça. Et pour finir, avant de conclure, je trouve ça assez fou de voir à quel point le personnage de Mysterio dans le deuxième film, je crois. Deuxième film. C'est assez fou de voir à quel point c'est l'antagoniste qui aura eu le plus d'impact dans l'univers avec Tom Holland. C'est celui qui aura foutu le plus la merde dans la vie de Peter Parker. C'est fou, hein. Parce que, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment attendre la partie spoiler pour vous en parler. Mais à la fin du film, ça c'est vraiment bien fait, hein. Mais à la fin du film, Peter Parker n'est pas retombé sur ses pattes par rapport aux événements avec Mysterio. Le fait qu'il ait dévoilé au monde entier qu'il était, le fait qu'on ait effacé la mémoire de tout le monde par rapport à Peter Parker. C'est vraiment cool. Donc, il commence un petit peu à redevenir un peu lui-même à la fin de ce nouveau film. Mais quand même, il y a des séquelles énormes par rapport à MJ qui lui avoue qu'elle ne l'aime pas, c'est logique. Donc, c'est une évolution extrêmement intelligente, et pour le coup, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller pour le prochain, parce que je ne sais pas s'ils vont nous redistribuer une nouvelle trilogie avec Tom Holland, beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre et sérieuse. J'aimerais vraiment qu'ils nous fassent ça. Franchement, si le film fait péter son milliard, et il fera péter son milliard, je pense, à moins d'une grosse surprise, il va forcément ralentir l'avancée de lycée, qui lui est en train de craquer un score au box-office, mais c'est évident qu'il y aura une suite avec Tom Holland, et je suis assez ouvert d'esprit sur la question. Je mets fin à la partie spoiler, c'était donc le nouveau film Spider-Man Brand New Day, et sans être une claque intergalactique, il faut reconnaître que Marvel m'a bien eu. Voilà, ils m'ont bien eu, il sort de son ton de guignol pour rendre l'ensemble du personnage de Peter Parker beaucoup plus adulte. Ça fait plaisir, vraiment, surtout pour un film Spider-Man. Alors, je prendrai plus de plaisir à revoir ce film que No Way Home, ça ne fait aucun doute. Après, bon, je sais pas. No Way Home, j'étais aveuglé par la nostalgie. Là, il n'y avait plus vraiment de nostalgie, hormis le fait que j'adore Spider-Man, hein, c'est mon enfance. Mais là, c'est passé beaucoup plus crème en termes de maturité, et j'espère vraiment que ce sera le cas pour le revisionnage, pourquoi pas dans quelques années. Et pourtant, le plus ironique, c'est que ce film est terriblement simple. C'est le plus simple de tous, je crois, en tout cas depuis le premier film avec Tom Holland. Il y a moins, comme je vous explique un spoiler, mais je vais pas redétailler ici, mais il y a moins de caméos bizarres, invraisemblables, moins de fusions, moins de blagues qui tombent à l'eau à chaque fois, moins d'enjeux planétaires. Comme quoi, il suffit parfois d'un film très simple pour être le plus efficace. C'est complètement ce qu'est ce nouveau film, Brand New Day. C'est un film simple mais efficace pour ce que devrait proposer du Spider-Man. Comme on dit, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, je crois que ça s'applique vraiment ici. Mais il y a quand même une chose qui m'a attristé par rapport à la présence de ce Hulk qui est plus anecdotique, qui est plus visuel qu'autre chose. Nom d'une pipe, à quand un film Hulk? Un nouveau film Hulk avec Mark Ruffalo. Ça fait combien d'années qu'on voit cet acteur apparaître en tant que Hulk dans les films Avengers, à droite à gauche, dans les films Marvel, le MCU, j'en passe, et qu'on n'a toujours pas consacré de film entier sur lui. Mais ça marcherait, mais c'est... Qui... Dans quel univers ça ne pourrait pas marcher? Si tu le files à un réel de qualité, un petit peu comme celui qu'on a eu pour ce nouveau Spider-Man, je vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mark Ruffalo, parce qu'il est un bon acteur, il a complètement compris ce qu'est son personnage, donc pourquoi on ne consacre pas une boîte partout un film entier sur Hulk, au moins pour conclure, je sais pas, avant de quitter le MCU, on pourrait faire un film sur lui. Moi je me dis, c'est fou parce que on a eu le droit à une série entière consacrée à She-Hulk dont tout le monde se tape. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. À la place d'un vrai film sur Hulk, on a eu She-Hulk. Qui est le plus gros fiasco de Marvel du MCU. Et bref, écoutez, c'était juste mon avis sur ce nouveau film Spider-Man. N'hésitez pas à me faire part de vous dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y prêterai attention. Et surtout, avant de nous quitter, n'oubliez pas que vos super pouvoirs pour protéger votre identité en ligne ne suffisent plus. Passez plutôt par mon lien vers Inconni tout en haut de la description, inconni.com/plottime, ou en commentaire épinglé, et profitez des 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec le code PLOTTIME, et testez le service sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Prenez grand soin de vos données. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Likez pour booster la petite vidéo dans l'algorithme. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.